conscient. La vie est un art. Le bonheur individuel et collectif est lié au respect de grands principes enseignés depuis toujours par les sages du monde entier. Cette émission passe en revue les grands domaines de la vie afin de montrer l'actualité des enseignements de sagesse ancienne. Et nous nous retrouvons dans le studio avec David. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et le thème de cette fois-ci, David, ça va être la méditation.
Oui, c'est un thème qu'on a souvent abordé à travers les différents sujets. La méditation... Disons tout de suite qu'on ne va pas exclusivement, en tout cas, en parler d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue laïque, c'est-à-dire qui inclut l'aspect religieux, mais l'aspect aussi non religieux.
Alors on pourrait dire que c'est une technique qui est utilisée dans certaines religions, dans les pratiques de certaines religions, mais qui peut être tout aussi bien utilisée hors tout cadre religieux.
Tout à fait, elle est passée dans l'inconscient collectif, je dirais. On pense au yoga, bien sûr. Est-ce que le yoga est religieux ou pas? Ça dépend le sens aussi qu'on met au terme religieux. Si c'est se relier, à ce moment-là, la méditation est toujours religieuse, dans ce sens où la méditation nous relie à notre être. Mais si le mot religieux est trop fermé, trop cloisonné, à ce moment-là, non, elle n'est pas exclusivement religieuse. La méditation nous permet de nous centrer, de nous... remettre en lien, en contact avec notre nature profonde. Et là, si même on ne croit pas en l'âme, qu'on appelle cela l'esprit en nous-mêmes, notre conscience intérieure, notre moi profond, peu importe les mots qu'on peut utiliser, oui, la méditation réalise cela, ce lien.
Alors, est-ce qu'on pourrait, avant d'aller plus loin dans une définition de la méditation, faire le pendant avec ce qu'on appelle la prière, qui ça est une pratique vraiment religieuse?
Ben moi, tel que je le comprends, tu vas me dire si c'est comme ça que tu le vois toi également, c'est dans la prière, il y a le dévot en quelque sorte qui s'adresse à la divinité complètement transcendante ou à travers un dieu personnel, donc une représentation de la divinité. Et donc il utilise des formules consacrées et il essaye, alors soit il adresse une demande proprement dite, à ce moment-là c'est la forme la plus basse de prière, ou alors sa prière est une réelle invocation, une fusion, et là on peut la rapprocher de la méditation qui est une technique de fusion dans le...
Donc soit une demande de quelque chose pour soi, par exemple je demande d'avoir plus d'argent par exemple, je vais à l'église et je demande d'avoir plus d'argent.
Ce qui est très profane.
Voilà, oui, et je le demande à une entité qui n'est pas moi-même, une entité extérieure qui serait selon ma religion.
Oui, je peux demander la paix dans le monde, ou alors... Ça, c'est plus la façon indienne, peut-être, de concevoir la prière. C'est un peu un blasphème en Inde si vous demandez quelque chose de personnel, en fait. Normalement, la vraie prière, au sens noble du terme, c'est vraiment pour se fondre. Hein. C'est une technique d'invocation, d'identification. On projette sa conscience, souvent par amour pour la divinité, et cet amour nous rattache, nous relie à cette divinité, à cet aspect de Dieu, et on se fond dedans. Ce serait le but de la prière.
Donc on se rapprocherait plus d'une prière du cœur dans ce cas-là.
Oui, mais la conscience peut y participer à travers une visualisation, un mantra, hein, une formule de pouvoir verbal, enfin mental ici. Mais donc il y a des techniques diverses, il y a des formules géométriques et autres. Mais ça reste une forme d'invocation. Et ici, à ce niveau-là, ça se mêle beaucoup, on comprend, à la méditation. Hein. Dès qu'on essaye... plus seulement d'envoyer un message, je dirais, à la divinité, mais vraiment de se fondre dans elle. Là, on approche, on rentre dans la science de la méditation, en quelque sorte.
Alors, donc, la méditation, tu l'as dit, un moyen de se relier avec l'être profond, notre conscience intérieure, notre soi-moi profond.
On pourrait dire, c'est ce que l'on sent être au fond de nous. C'est l'esprit qui nous permet de penser... L'esprit qui nous permet de ressentir, de sentir, ou de ressentir émotionnellement, mais il y a un esprit en nous-mêmes et on sent qu'il y a une sorte de point au centre du cercle et qu'on peut atteindre ce point. Alors peu importe à la rigueur les philosophies qu'on peut développer autour de ça, qu'elles soient athéistes ou agnostique ou même religieuse, yogique ou autre, mais je pense que la méditation peut vraiment aider chacun à trouver son centre profond. C'est le but. Donc on va quand même plus parler, on a évoqué un peu la haute forme de prière qui est l'invocation. C'est une façon particulière quand même de méditer. On va peut-être plus parler de la forme moins dévotionnelle, mais c'est-à-dire la forme plus mentale, plus celle qui se rapproche à ce qu'on appelle en Inde le Raja Yoga. Le yoga qu'on dit être royal, le yoga de synthèse, c'est tout simplement, il y a des aphorismes en Inde, les Yoga Sutras de Patanjali, qui ont, Patanjali c'est un sage indien, environ 2000 ans, on n'est pas d'accord sur ces dates, mais il a codifié à travers des sutras, des versets en sanskrit, les étapes, le mécanisme psychique et les étapes de la méditation. Donc c'est universel.
Alors revenons sur le but. Donc le but serait de se relier, mais pourquoi faut-il se relier? Pourquoi voudrions-nous nous relier à notre être profond?
C'est une bonne question. Il y a une quête à ce moment-là qui habite la personne. Souvent au début, c'est une quête de mieux-être qui est assez personnelle. Et puis s'il y a une étude peut-être plus philosophique, donc encore une fois religieux ou pas, hein, peu importe, il y a le besoin d'échapper à l'illusion peut-être, à trouver accéder à un réel, à une source. Voilà, je pense qu'on peut définir ça d'une manière différente.
On se sent poussé, en fait, ou tiré, je ne sais pas, vers la méditation. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a intellectuellement décidé. Voilà, je vais faire la méditation pour telle raison concrète.
C'est un processus pour y entrer, et puis après, pour la pratiquer elle-même, oui.
Voilà, mais pourquoi on le fait? C'est peut-être simplement à un moment dans l'évolution de la personne où elle se sent attirée à faire ça, comme on a tous en soi le désir de progresser, de devenir meilleur, quelque part.
Je pense qu'il y a peut-être dans le programme humain l'idée que l'homme est perfectible et qu'il peut se réaliser plus profondément. C'est un programme profond que l'on doit avoir en nous et qui se réveille à un moment donné. Alors si on accepte l'hypothèse des différentes successions de vie, à ce moment-là, à partir de X vie, de X accumulation d'expériences au niveau personnel, on sent quelque chose d'autre qui pointe et on veut s'unir, se rapprocher de cette chose-là, de cet état, et plus on s'en approche, plus on sent que c'est vrai, que c'est ce qu'on est. Donc c'est pas un moi, c'est pas un autre moi en tant que personne qu'on va y trouver. On va plutôt essayer de trouver, de répondre à la question « qui suis-je ?». Donc pour y répondre profondément à cette question, si je suis pas le corps, les émotions, si je suis pas mes pensées, pour passer dans l'état de non-pensée, il faut méditer. On ne peut pas faire l'économie de la méditation pour trouver son être.
Donc il va falloir peut-être maintenant voir comment est-ce qu'on s'y prend, quelles sont les différentes méthodes, parce que ce sont des formes, ce sont des méthodes, hein, la méditation c'est une pratique.
Alors je disais tout à l'heure que Patanjali c'était un codificateur du Raja Yoga, qu'il s'appelle même yoga tout court, parce qu'à l'époque yoga c'était forcément cet aspect méditatif. Et lui explique ça très bien, alors il parle de plusieurs étapes préparatoires, mais de l'ordre de la discipline, hein, morale, éthique, des exercices respiratoires qui peuvent calmer le mental, tout ça peut aider.
Donc préparatoire, donc c'est la personne qui prend soin de son corps, qui mange convenablement, qui fait un petit peu de sport, enfin, qui maintient le corps en bon état par exemple.
Et puis il y a aussi l'éthique. Si on veut aller vers...
Développer des pensées altruistes...
Et puis des vertus en elles-mêmes, vraiment travailler sur ses défauts, ses illusions, essayer donc de... Si on révèle cet être, on va aussi révéler les qualités qui viennent avec. Donc voilà, tout ça c'est préparatoire en quelque sorte. Les exercices respiratoires proprement dits peuvent aider à calmer le mental, comme lorsqu'on récite aussi donc des prières, des mantras. C'est pas de la méditation, mais c'est pour apaiser.
Donc, donne-nous un exemple à réciter des mantras, qu'est-ce que ça veut dire?
Regardez c'est comme l'équivalent du rosaire chrétien, hein, quand on récite
le chapelet.
Voilà, le chapelet, et ben, en Inde, il y a toutes sortes de mantras, et là.
Donc, les mantras sont des formules, hein, verbes.
Voilà, des formules.
Des mots qu'on se prononce intérieurement.
C'est pas parce qu'on récite, par exemple, le mantra tibétain fameux, Om Mani Padme Hum, qu'on entre en méditation. Au début, si on n'arrête pas de le répéter, souvent, c'est pour apaiser le mental. C'est essentiellement comme ça, je dirais, chez le petit peuple en Orient que le mantra a tendance à être utilisé.
Donc c'est pour se détacher du petit vélo qu'on a dans la tête, voilà. des préoccupations quotidiennes et immédiates. On répète à l'intérieur de soi une phrase et voilà, ça provoque ce détachement. Ça nous met un peu en état de témoin quelque part. C'est donc la première étape, la première.
Tout ça, ce sont des pratiques de base de concentration. Ça peut être sur un mantra, ça peut être sur la respiration. Elle est utilisée aussi pour calmer. Ça peut être sur les mouvements si on fait du tai chi chuan. On se concentre sur les mouvements. Mais très vite, quand on se concentre, on a l'impression que tout de suite, on est dans l'état de méditation. On va voir que non, c'est plus exigeant.
Est-ce que ça peut être concentration sur le travail aussi ?
Tout à fait.
Je suis derrière mon ordinateur, par exemple, un jour en train d'écrire un texte et je me concentre très fort. Ça fait partie de ça aussi, cette préparation à la méditation.
C'est pour ça que cette forme de pratique convient très bien aux Occidentaux qui sont assez mentaux, qui ont une bonne capacité de concentration. Et certains, sans avoir pratiqué de yoga, entre guillemets, ont une très bonne capacité d'absorption, de concentration. Alors on se rend compte que pour être concentré, ce qu'explique Patanjali, au préalable, il faut aussi faire abstraction des sens. Donc ça se rapproche un peu de la relaxation. Hein. L'idée de mettre au repos les sens. Hein, donc le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, on les met au repos ou alors on va se concentrer que sur un et les quatre autres vont être mis au repos. C'est-à-dire que nos cinq sens nous alertent constamment, ils nous font sortir de nous-mêmes, ils nous portent à aller vers l'extérieur. Alors que si on veut méditer, il va falloir, même si on se concentre sur un objet extérieur, toute l'attitude va être interne, intérieure. Donc c'est des pratiques d'intériorisation où on met au repos, parfois même volontairement par des exercices, on met au repos la vue, l'ouïe, comme si on mettait...
On réduit son champ de vision ou on débranche carrément.
Carrément, on débranche. Ce qu'on fait d'ailleurs quand on ferme les yeux, c'est pour débrancher, pour pas être happé par la vue. Mais s'il y a des bruits, si on peut méditer après quand on a l'expérience dans un milieu très bruyant, mais les enfants ont cette capacité de pouvoir débrancher l'oreille. Donc voilà, le retrait des sens, la concentration, tout ça c'est préparatoire. Et l'idée c'est quand on pratique, on va aligner ce qu'on appelle la personnalité. Quand on va rester bien concentré suffisamment longtemps.
Donc ce que tu appelles la personnalité, c'est l'ensemble des différents corps dont nous sommes composés, le physique, l'émotionnel et le mental. Voilà. C'est-à-dire faire une sorte d'union, qu'il n'y ait pas le mental qui part dans un sens, l'émotionnel dans un autre.
Voilà.
Et puis, donc on essaye de se calmer intérieurement et d'apporter ce qu'on appelle donc une sorte d'alignement.
Tout à fait, quand ces trois aspects en nous, donc le corps qui se repose, on l'a vu par des exercices respiratoires ou autres, la pensée par une concentration, à ce moment-là, les trois aspects de nous se mettent au diapason. Les émotions négatives disparaissent momentanément ou elles s'apaisent. Donc le corps se met au repos et puis le mental va peu à peu se mettre au repos. Et on voit que la difficulté des gens lorsqu'ils commencent à essayer de méditer, c'est de mettre ce mental au repos. Et en fait, ils ne méditent pas vraiment, mais ils passent leur temps à mettre le mental au repos. Mais ce qui est déjà très bien. Hein.
Donc ça veut dire, on sent une pensée qui passe. Enfin, une pensée passe, on l'aperçoit, on a une sorte d'état de vigilance hein, et de témoin. Le témoin voit la pensée, la laisse passer sans s'y accrocher.
Voilà, on ne réfléchit pas dessus. Et après,
on lui donne pas suite et on la refoule pas non plus, hein, on la réprime pas non plus, parce que ça reviendrait lui donner encore plus d'énergie en fait.
Et au fur et à mesure, on ne s'aperçoit plus que des pensées sortent parce que on a concentré le mental dans une autre direction. Donc il y a des pensées qui sortent, mais qui sont de moins en moins vitalisées en quelque sorte, elles ont de moins en moins d'énergie, et après il n'en sort plus. C'est un petit peu ça au fur et à mesure l'épuisement de l'aspect mental. Alors cette chose se fait quand on passe de la concentration à la méditation. Et c'est ce que le sage indien, ce grand sage, donc Patanjali, a expliqué, le grand codificateur de la méditation. Il a expliqué que quand une concentration est soutenue suffisamment longtemps, hein, quand l'ensemble des capacités mentales du sujet est impliqué complètement dans cette concentration, à partir d'un moment, l'individu passe en méditation. Et quand on passe en méditation, là c'est sûr, il y a la perte de ce flot mental. C'est-à-dire que la concentration permet de concentrer, hein, de centrer avec, de ramener l'énergie du mental, alors qu'elle part en général dans tous les sens. On a une pensée, puis une autre, notre énergie est dispersée, donc d'abord on la concentre, donc on s'aligne en tant que personne, et après quand on se concentre suffisamment longtemps, donc cette énergie mentale va créer une sorte d'explosion un peu d'énergie. Cette énergie mentale crée un lien, nous fait passer dans l'état au-dessus.
On passe au-delà, quelque part, là où il n'y a plus de pensée. Mais qu'est-ce qu'il y a alors s'il n'y a plus de pensée ?
Alors, on entre dans un état de conscience sans pensée.
Donc, conscience, ça veut dire que les sens, à ce moment-là, se réveillent. De nouveau, on peut être en contact avec l'extérieur, ce qui se passe à côté de nous ou...
Non, pas forcément. C'est même plutôt pas le cas. C'est qu'on commence à toucher ce qui nous fait être conscient. La source de notre conscience. Parce que avant ça, on a toujours expérimenté la conscience à travers un voile. La conscience des sensations, la conscience des émotions, la conscience donc on a de nos pensées, mais on peut être conscient de la conscience en fait, et ça l'idée. On entre vraiment dans un espace où on sent qu'on est conscient, mais il n'y a pas de matériel. Et ça, c'est l'état de méditation.
Donc on est hors du temps et de l'espace alors.
Alors voilà, ça c'est une des conséquences. On sent que on sort justement de du mental et de la conscience du cerveau, le mental étant relié beaucoup au cerveau, on sort de l'état ordinaire et on n'est plus non plus conscient, c'est le cas de le dire, de notre personne. Toi, Olivier, si tu médites, si tu te dis encore que tu es Olivier qui essaie de méditer, tu n'es pas encore dans l'état de méditation. Mais quand il y est, Olivier a disparu.
Mmh. Mais j'en reviens quand même à l'histoire des sens, parce que ma modeste expérience, c'est que dans ces cas-là, tout de même, il y a une perception de l'entourage, de l'autre, de la personne qui est devant, mais aussi du mur et de la maison et de la nature qui est dehors, même si je la vois pas, une sorte d'union avec ça tout de même. Donc cette union, elle est quand même perçue.
Peut-être pas pendant le moment où tu crées ce qu'on appelle le pont. Ça s'appelle l'antakarana en sanskrit. Hein. C'est un mot barbare, mais ça veut dire le fait de créer ce qui entre, hein, le lien, le pont. Quand tu le fais, toute ta conscience est absorbée dedans. Mais je suis d'accord, après, quand la conscience de l'âme, en fait, quand elle se lie au mental, eh ben, elle peut descendre dans le cerveau. Et à ce moment-là, donc, les cinq sens semblent être beaucoup plus éveillés, comme tu le dis. Mais il ne faut pas, à ce moment-là, perdre le contact. Hein. Mais
oui,
l'âme peut
sûr.
Regarder à travers le cerveau. La conscience supérieure peut regarder à travers le cerveau, donc à travers les cinq sens, si on peut garder le lien, tout à fait. Mmh. Et on peut avoir des relations plus profondes, voir les choses plus avec une acuité plus grande, même nos relations avec les êtres, avec
donc c'est comme si à ce moment-là, il y avait un lien qui s'opérait entre l'âme et le cerveau, qui permet à la personnalité, donc la personne incarnée, de fonctionner en tant qu'âme, ne serait-ce qu'un bref moment.
Tout à fait. Mmh. Alors au début, c'est difficile de le maintenir avec l'activité des cinq sens. Donc c'est pour ça qu'on garde en général les sens fermés, comme on l'avait fait au début. Et quand on est en contact, on essaie de maintenir ce contact. Alors, ça se ressent de diverses manières, mais grosso modo, il y a une énergie, un taux vibratoire, une fréquence supérieure qui va être captée, qui va arriver dans la tête. Et on la sent vraiment entrer, c'est une lumière qui rentre. C'est comme si elle éclairait un abat-jour. Le cerveau, la tête serait un abat-jour et c'est la fameuse lumière des saints. Ou qu'on montre autour du Bouddha.
Les auréoles, oui.
Voilà. Mais c'est vraiment un état qu'on peut ressentir avec une sensation de dilatation dans la tête. On ne sent plus ses os. Et on a l'impression que la conscience s'élargit et que et quelque chose de plus grand, de plus large, de plus haut s'ouvre en nous. Voilà, des états comme ça, même de pression sur le haut de la tête.
L'impression que le corps prend de l'ampleur, même le corps physique, l'enveloppe en tout cas. Hein. Ce n'est pas forcément une réalité physique tangible, mais c'est l'impression que ça donne.
Alors, ce que l'on vit, c'est l'expansion de notre aura énergétique. Mmh. C'est-à-dire, cette énergie supérieure rentre, elle stimule une énergie qui était là, latente, enfin qui était plus basse, et ça crée une ampleur. On sent une sorte de rayonnement, si on le voyait en clairvoyance. Sur ces plans-là, on verrait une lumière supérieure qui arrive dans la tête et qui va se répandre dans tout le reste du corps. Donc je pense qu'on pourrait faire une pause et puis reparler après des méthodes proprement dites de méditation, comment créer le pont.
nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de l'émission Vivez Conscient, consacrée cette fois au thème de la méditation. Dans un premier temps, nous avons essayé de déjà faire la distinction entre ce qui relevait de la religion et de ce qui relevait d'une technique pure, en fait. Hein. La méditation, c'est une technique qui est employée dans certaines religions, mais elle peut être utilisée également en dehors de tout cadre religieux. Nous avons vu quel était le but, hein, qui est donc le but de relier ce que nous sommes, je dirais, sur Terre, en tant qu'être composé d'un physique, composé de beaucoup d'émotions et de pensées, de relier tout cet ensemble à l'être profond que nous sommes au fond de nous-mêmes, le soi profond, comme on veut l'appeler. Ça, c'est le but. Et puis, on a aussi envisagé les différents stades hein, de la méditation, le premier étant la concentration, hein, et puis la mise au repos des sens, disons, hein, avant d'arriver à des états de sentiment d'union avec le tout, ou bien de lumière, qui nous, enfin, d'agrandissement de nous-mêmes, en fait, hein, des états comme ça. Et je pense que ce serait à ce stade intéressant d'essayer de voir quelles sont les différentes méthodes. Et puis il faudra qu'on en vienne aux effets aussi, parce que ça a des effets positifs, bien sûr, pour la personne. On va y venir après. Mais peut-être d'abord, quelles sont les grandes méthodes de méditation?
Alors on peut les classer en fonction des sens. C'est-à-dire on a deux grands sens importants. Et on voit que quand on pense, quand on a une activité psychique, on voit où on entend. Hein, on peut entendre des paroles, on peut se remémorer des sons et autres, des mélodies. Eh bien, on peut méditer donc en fonction de ces deux grands critères. La méditation, on a dit, c'est l'usage de la pensée qu'on concentre durant un certain moment au point où la pensée va nous permettre, va nous servir de véhicule pour entrer en contact avec la non-pensée. Mais on a besoin donc de cette pensée. Donc moi j'appelle ça un objet psychique, il nous faut un objet de méditation, quelque chose sur quoi on va se concentrer. Ça peut être à l'extérieur de nous, ou ça peut être à l'intérieur de nous. Et certaines personnes sont plus visuelles, donc ils vont avoir un objet de concentration visuelle.
Par exemple, on va regarder la flamme d'une bougie, ou bien une fleur dans un vase, ou un très beau tableau. Ou...
Tout à fait. Et on peut aussi avoir une représentation intérieure. On peut le visualiser. Alors, on peut visualiser si on se fait des dessins. Si on va, par exemple, dans les livres d'ésotérisme, il y a des dessins des plans, tout ça. On peut visualiser le passage d'un plan à l'autre et se concentrer intensément dessus. On peut visualiser un long canal qui sort de la tête, qui va dans les plans supérieurs. On peut, chacun va visualiser ce qui lui correspond. Ce que l'on conseille, c'est quelque chose de le plus abstrait possible, si c'est intérieur, plutôt qu'un lapin qui court dans la prairie, hein. Ça, c'est pas forcément transcendant. Et si on prend quelque chose d'extérieur, autant que ce soit quelque chose de beau, quelque chose qui élève l'âme, entre guillemets. Donc une très belle rose, de l'eau, si c'est un très beau paysage qui s'écoule. Mais on va choisir un point, un espace, et on va rester concentré dessus intensément. Et c'est en fait un prétexte, entre guillemets, l'objet psychique, pour maintenir la concentration et créer l'état.
Voilà, donc si on n'est pas visuel, on peut le faire avec le son, alors.
Tout à fait.
Un son qu'on va maintenir, dont on va maintenir la pensée. Le voilà. Son OM, par exemple.
Alors, en général, c'est celui que l'on conseille. Pourquoi le OM? Alors, il y a la forme AMEN en dérive. Le mot OM, c'est un son universel. Normalement, il est composé de A, du OU et du M. Et on dit qu'on a les trois modes d'articulation, hein. Donc la gorge, le milieu du palais et la labiale, le M. Et l'idée que c'est le son universel, et c'est pas tant qu'on le répète plein de fois, ça on avait dit que c'était la méthode de répétition, c'était pour calmer le mental. Là on le pense, on se concentre dessus. C'est comme si on le faisait résonner du O jusqu'au M, qui représente le M, ça représente les ondes de la vibration. Et le O comme le centre, le point. Donc à partir d'un point, on le fait résonner, et on suit cette résonance. On la laisse résonner, puis on remédite dessus intensément.
On se concentre, hein, oui.
Voilà. Mm. Oui, pardon. On se reconcentre dessus jusqu'à ce que l'on crée donc cet état. Et on sent, on apprend à, dans la méditation, si elle est faite d'une façon précise, on apprend à ressentir quand on rentre dans l'état. Donc ça peut être une musique, on peut se mettre un morceau de Mozart, ma foi, ou de Beethoven. Donc encore une fois, on choisit du beau, du grand, ce qui élève. Je déconseille le hard rock, par exemple. Ça va stimuler d'autres...
D'autres chakras, oui.
d'autres choses en nous. Donc, ou alors, on peut méditer sur un mantra, ce que font par exemple les bouddhistes, Om Mani Padme Hum, qui a aussi un sens. Alors, si on peut mettre un sens à cette méditation, donc la concentration, le sens et donc l'énergie que l'on va mettre dessus, la vitalité, hein, parce que la concentration apporte de l'énergie dessus, tout ça va permettre de créer le pont, le fameux Antakarana. Alors parfois certains aussi méditent sur des tableaux, on a dit sur des formes géométriques, et d'autres ça va être sur des couleurs, on peut aussi méditer sur des couleurs, et parfois certains mêlent son et couleurs, bon, il faut trouver sa méthode.
Donc c'est un support et à un certain moment on va lâcher ce support, j'imagine.
Voilà, alors au début on le garde jusqu'à ce qu'on crée l'état de méditation, et à un moment, c'est le moment fragile de la méditation, c'est quand l'afflux arrive de lumière dans la tête, il arrive souvent qu'on décroche. Et c'est là qu'il faut tenir. Il faut maintenir. Et quand la lumière, l'énergie est constamment, complètement installée dans la tête, il suffit, on n'a plus besoin de l'outil.
Mmh. Et en même temps, c'est un outil qu'il faut manœuvrer de façon, je dirais, détendue, relaxée. Il ne faut pas se figer dans son effort, quelque part aussi.
Il ne faut pas être crispé physiquement.
Pas crispé, oui.
Il faut créer une tension mentale, mais pas une crispation. Mmh. Donc il y a une nuance qu'il faut trouver. Il faut détendre son corps, la respiration, il n'y a pas besoin d'une posture non plus particulière, on ne fait pas un exercice de yoga physique, on peut être très bien dans un fauteuil, hein, assis, au calme, et puis l'idée c'est aussi, alors c'est mieux quand un maître ou un instructeur vous donne un mantra, enfin ce qu'on appelle un samadhi, c'est-à-dire une méditation qui vous correspond, mais sinon voilà, il y a en gros le om pour le son si on n'a pas de mantra, et puis l'idée qu'on s'élève dans la conscience, ça c'est, on est sûr de pouvoir, si on médite correctement, si on se concentre correctement, de créer l'état.
Est-ce qu'on pourrait parler de l'objet de la méditation? C'est-à-dire qu'on peut, on l'a dit, le but, se relier avec le soi profond, mais la méditation peut aussi être utilisée comme un moyen de connaître la sagesse de ce soi profond sur une question qu'on peut se poser.
Alors à ce moment-là, la question devient l'objet de méditation. Ce que font inconsciemment les scientifiques, les philosophes...
Donc ils pensent très fort à une question fondamentale qu'ils ont à l'esprit.
Dedans.
Inconsciemment, ils s'absorbent dedans et ils se mettent, sans le savoir, dans un état méditatif.
Au diapason, oui. Au diapason de l'idée qui est derrière cette question. L'idée étant la réponse à cette question. On cherche à entrer dans le monde de l'idée, là où il y a la solution, en fait, hein. Donc pour une recherche scientifique, s'il y a une loi, un principe derrière, en méditant dessus, on entre dans le mental abstrait, qui est donc le monde de l'âme, et c'est ce qu'on appelle donc une méditation avec semence, hein, avec une production. Et à ce moment-là, donc, on entre dans cet état. Et on peut... Alors, mais si on commence à réfléchir et à penser dessus, on va redescendre dans le mental. Hein.
C'est oui, vraiment, donc on ne réfléchit pas sur la question, simplement on pose la question, et on ne réfléchit pas autour, on n'y pense pas plus que de l'avoir mis...
On s'absorbe dedans.
Oui. Et à ce moment-là, la réponse va arriver, lorsqu'on va être aligné avec le soi profond, la réponse va aligner comme une sorte, va arriver comme une sorte d'éclair de compréhension, d'intuition, on peut dire, soudain, et on va s'apercevoir que cette réponse peut être très éloignée de ce que le mental concret aurait trouvé s'il avait cheminé dans une pensée autour de la question, quoi.
Alors, je pense que si les intellectuels pratiquaient une méditation, je dirais, à vide, hein, c'est-à-dire sans tout de suite vouloir travailler sur leurs questions, à ce moment-là, quand ils atteignent l'état de l'âme, ils pourraient envoyer la question, rester concentré dessus et attendre dans le vide et se dire qu'on a reçu une réponse, que quelque chose s'est installé en nous et il faut parfois attendre, ça peut être quelques heures, quelques jours, pour ouvrir son courrier, comme on dit. Hein. On a reçu une lettre, mais... À un moment, le cerveau peut prendre du temps ou alors il va falloir répéter la chose pour que notre cerveau puisse conscientiser aussi la chose, lui donner forme.
Je peux partager quelque chose, David. Souvent, lorsque je me réveille le matin, que je me suis mis une question dans la tête la veille au soir, le matin, il n'y a pas forcément quelque chose, une réponse, et puis eh ben, il se trouve que ça va m'arriver sous la douche. Et bon, alors je ne sais pas si tu considérais que c'est le fruit d'une méditation inconsciente, mais il y a une sorte de tension qui s'est provoquée par une question qui m'habitait de façon forte, que je lâche pendant la nuit forcément, et c'est comme s'il fallait du temps pour que la réponse m'arrive au cerveau.
Alors, je pense que c'est quand on est en sommeil profond que le contact se crée. Pas dans le sommeil du rêve. Dans le rêve, il y a une activité, une grande partie émotionnelle. Non, là, c'est trop troublé, c'est trop activé. Mais dans le sommeil profond, il n'y a pas de rêve. C'est le moment où, d'ailleurs, où le corps se régénère le plus et on peut entrer en contact avec notre nature profonde et le cerveau peut...
Simplement, on n'en est pas conscient, malheureusement.
Voilà, il peut enregistrer. En quelque sorte, la méditation, c'est qu'on crée ça consciemment. Alors, à quoi ça sert? Bon, on a déjà répondu, en fait. Hein. Ça sert à pouvoir apporter de la lumière sur un problème, sur un sujet. C'est un des buts de la méditation. C'est un but peut-être intellectuel, mais tous ceux qui ont besoin de réponses, s'ils méditaient, moi, je conseille quand même de faire une technique proprement dite de méditation et après de mettre le thème dedans, parce que sinon, on va avoir cette tendance à réfléchir sur notre problème, on est trop attaché. Donc il faut créer un état vraiment de vide et de méditation et se dire que vraiment la réponse s'installe. Donc ça crée une lumière sur les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Olivier, les effets positifs
Une lumière, si on se pose une question, oui, ou sur, on peut se poser une question, je ne sais pas, on peut trouver des exemples. Comment je dois me comporter avec telle personne avec qui j'ai des problèmes dans la vie? Par exemple, tout simplement, une collègue de bureau, je n'arrive pas à m'entendre avec elle. Ben, je peux, par la méditation, peut-être arriver à voir tout d'un coup, je n'en sais rien, j'invente peut-être la cause qui fait que je ne peux pas m'entendre avec elle, et voyant la cause, ben, la solution va m'apparaître d'évidence. Un exemple tout bête. Hein.
Pour aller dans ton sens, donc bien sûr, celui ou celle qui va pratiquer la méditation va se transformer au fur et à mesure du temps. Elle fait entrer une nouvelle énergie en elle, supérieure. Il va falloir que sa pensée, son corps émotionnel, son corps énergétique et neuroglandulaire, je dirais physique, hein, s'adapte à cette nouvelle pression, cette nouvelle... C'est la rencontre de deux mondes, hein, d'une énergie supérieure avec une énergie inférieure, donc il faut qu'on puisse atteindre après l'équilibre. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une transformation de l'individu, on a une transformation dans nos relations, donc je pense qu'on a des relations de plus en plus justes au fur et à mesure du temps.
Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences physiques bénéfiques aussi? J'imagine des guérisons
santé, oui,
ou des pour
sûr.
La santé. Hein.
Oui, parce que l'énergie de l'âme guérit. On en avait souvent parlé de ça, de cette énergie supérieure, donc qui rentre en nous et elle va agir sur nos fameux centres d'énergie. Et oui, on peut vraiment. Alors, on ne sait pas si ça va guérir la maladie, si on en a une importante, grave, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, elle va apporter un soulagement, un réconfort. Ça développe l'intuition et la créativité. Hein. C'est pas seulement répondre à des questions, mais les grands artistes sont des gens qui entrent dans des formes de méditation, par exemple. Et on peut être créatif, pas seulement dans l'art, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de service.
Donc, oui, les grands créatifs sont absorbés par ce qu'ils sont en train de faire de façon incroyable. Hein. Ils sont déconnectés, effectivement, de leur entourage immédiat. Et cette absorption est une forme de méditation, en fait.
On peut l'avoir dans la science, dans la science du gouvernement aussi, hein, quand on a des grandes décisions à prendre, quand on est dans un projet, dans plein de niveaux, ma foi, on peut utiliser les bienfaits de la méditation. On a dit donc la qualité relationnelle, forcément, la maîtrise de soi face au danger, à la peur. Ça devient aussi... En fait, on laisse se développer en nous notre partie profonde, donc forcément, au fur et à mesure... Cette partie absorbe en quelque sorte l'autre partie, le moi. La personnalité est au fur et à mesure transmutée, absorbée dans l'être profond, donc notre âme que l'on fait grandir en nous.
Donc on pourrait dire qu'on s'améliore.
On s'améliore, voilà, dans tous les sens du terme. Alors d'un point de vue religieux ou philosophique, le but c'est la réalisation du soi, bien sûr, hein, de réaliser notre nature profonde. Et alors on sait que
réaliser, c'est dans le sens de que cette nature puisse se manifester à travers nous.
Elle descend littéralement, elle s'installe, oui, elle se substitue au non-soi, comme on dit. Donc on peut dire que l'autre aspect important de la méditation, on en a un petit peu parlé, c'est le service. C'est le pendant, C'est le complément.
On va faire une pause, David, puis on revient là-dessus tout de suite.
Volontiers.
Vive et conscient, qui est consacré cette fois-ci au thème de la méditation. David, on a, je crois, bien pas trop mal défini ce qu'était la méditation, ses effets positifs pour la personne, ce qu'elle pouvait en tirer. Et la méditation entraîne donc un afflux d'énergie supérieure, on va dire, dans la partie inférieure, cette partie qui est incarnée, ce qu'on appelle généralement nous-mêmes. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle va devenir ? De ce que je comprends, il faut l'utiliser, autrement il pourrait y avoir des effets négatifs là, malheureusement, à la méditation.
Oui, précisons que notre âme possède trois énergies, toute âme possède trois énergies majeures. La première énergie, toutes les trois circulent dans un canal subtil, on appelle ça la corde d'argent dans la tradition biblique. C'est le fil de vie, on appelle ça le sutratma en sanskrit. C'est un fil de vie qui serait relié donc de notre nature profonde, si on imagine ça bien sûr d'un point de vue vertical, hein. Une communication directe entre le cœur, donc la gorge, la tête, tout le long qui monte et qui nous relierait à notre nature profonde. Donc il y a un courant de vie avant tout qui descend dans le cœur, donc quand on médite, bien sûr on est nourri de cette énergie de vie, hein, de l'âme. D'ailleurs l'âme transmet, on voit tout le temps cette énergie de vie, on dit que c'est elle qui fait battre le cœur même, les poumons.
Oui, si une personne perd le contact avec l'âme, elle finit par mourir.
Voilà, l'âme retire, si elle retire l'ancrage dans le cœur, donc le fil de vie n'alimente plus, à ce moment-là, oui, la personne meurt, c'est ce qui se passe. Hein. Mais l'autre partie, donc ce fil monte dans la tête, et une partie est ancrée dans la tête, justement, dans l'intérieur du cerveau. Et cela va apporter l'aspect conscience à l'âme. Donc, quand on médite, là, non seulement on nourrit l'influx vital, mais on nourrit donc la conscience, et c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ces notions d'expansion, de conscience, vécues physiquement, énergétiquement dans la tête, mais aussi en termes, hein, d'idées, d'abstraction.
Et conscience en tant que capacité de perception de ce qui est, de la réalité avec un grand R, quoi.
Et l'autre, la troisième énergie, c'est celle qui va vouloir créer, produire. Et elle agit plus sur la gorge, celle-ci. Donc on dit que c'est l'énergie de créativité de l'âme. Donc bien sûr, quand on l'utilise à un niveau inférieur, elle descend, dit-on, dans les centres inférieurs, et c'est ce qui nous permet de se reproduire. Ça, c'est créé physiquement. Mais à un niveau supérieur, Freud disait que la créativité... La création, c'était le meilleur des mécanismes de défense, hein, c'était une forme de sublimation pour lui. Eh ben, on peut dire que c'est pas faux du point de vue de l'âme, en ce sens qu'elle utilise sa capacité de créativité, mais beaucoup reliée au centre de la gorge. Donc c'est tout ce dont on va être capable, tout ce qu'on va être capable de faire, de produire en lien avec cette énergie, dans notre travail. Donc toutes les pensées, les paroles, les écrits, les actions, tout ça est contrôlé par le centre de la gorge en nous. Notre capacité à créer, à produire. Donc le service, c'est ça, c'est comment on va utiliser cette énergie-là. Et si on ne l'utilise pas, elle va tendance à avoir à stagner.
Mmh. Donc là, provoquer des désordres, des névroses, des déséquilibres. Et il faudrait peut-être qu'on me dise un mot justement des dangers de la méditation, de la surstimulation que ça peut apporter si l'énergie n'est pas utilisée.
Elle retombe sur nous, en quelque sorte, elle n'est pas extériorisée, elle ne sort pas de nous. Donc elle peut créer des états dépressifs. Elle peut, ou alors elle peut les accentuer, des déséquilibres. Mais c'est souvent des états dépressifs qu'elle a tendance à occasionner. Ou alors de surexcitation pendant un moment, un peu de crise maniaque, et puis après de phase dépressive. Elle peut augmenter des problématiques, des illusions que l'on a, surtout si on reste trop centré sur nous. À ce moment-là, l'énergie, qui est une énergie interne, on la retourne contre nous, et au lieu de se décentrer de nous-mêmes, on se recentre davantage, alors que là, on utilise égoïstement l'énergie.
Mmh.
Donc l'idée, bien sûr, c'est d'aller vers l'extérieur, vers les autres. C'est pour le bien commun, en fait. Cette énergie, tu le disais, elle est là, en fait, pour servir. C'est une énergie de service. Et on a trop tendance à concentrer, focaliser, à voir la méditation comme sa réalisation à soi personnelle. En fait, elle passe par ce qu'on réalise pour le monde.
Mmh.
Alors, à un niveau d'abord pour le monde au final, mais d'abord pour son entourage, pour tous les actes, partout on est forcément en lien avec notre entourage et on peut avoir une influence bénéfique.
Donc une personne qui gagne en énergie, qui gagne en capacité grâce à la méditation, doit utiliser cette capacité au service des autres, au service de son entourage immédiat déjà.
Ça peut être les animaux, la nature, la défense de la nature, bien sûr, hein, tout ce qui est vivant. Hein.
N'importe quelle cause à partir du moment où c'est pas son petit soi, quoi. Hein, et à ce moment-là, elle va naturellement utiliser cette énergie et elle pourra d'autant plus arriver en grande quantité et il y a une circulation, une saine circulation qui s'instaure à ce moment-là. Et donc ça, c'est important. Ouais.
Oui, comme disait Jésus, à ceux qui donnent, il sera donné. C'est un peu cette idée-là. Si on le donne, on va encore recevoir de cette énergie-là. Alors pour certaines personnes qui sont plus extériorisées, elles ont tendance, par le contact naturel à l'âme, à vouloir d'abord servir. Et au fur et à mesure, elles se rendent compte que elles ne servent pas toujours efficacement, qu'elles ont des formes de limitation, qu'elles ont besoin d'aller puiser en elles-mêmes. Et elles vont se tourner vers la méditation.
Mmh.
Ça, c'est les types plus extériorisés.
Les personnes qui, on peut avoir l'impression d'avoir un service pas très efficace, qu'au bout du compte, on fait ça depuis des années, mais on se demande si ça a été bien utile, si le sens qui est derrière n'est pas forcément...
C'est répétitif et pas forcément créatif, etc. On sent une limitation, donc on va chercher en soi-même cette créativité, la source. Ou alors, c'est le contraire, on est très mystique, très, très introverti, et on médite, mais à ce moment-là, on sent bien qu'il va falloir qu'on utilise ça, qu'on aille au-devant des autres face à la situation, qu'on puisse utiliser ses trésors en quelque sorte. Donc là, c'est l'autre tendance, hein, de la ligne plus intériorisée qui doit s'extérioriser. Mais dans les deux cas, il faut un équilibre, et au fur et à mesure de l'évolution spirituelle, cet équilibre, on semble peu à peu l'atteindre. Mais au début, on passe par des phases de déséquilibre, forcément. D'une vie à une autre, on a une tendance plus extravertie, plus introvertie. Quoique selon notre nature d'âme, parce que les âmes sont différentes de par leur nature, on a plus une tendance justement qui domine
ou extravertie. Alors, je sais qu'il existe une forme de méditation qui a l'avantage d'être à la fois donc une méditation, mais aussi une voie de service. Donc, on appelle ça la technique de la méditation de transmission, qui consiste à... Donc bien sûr à s'aligner, hein, on l'a dit, et de se mettre en contact avec cette fameuse âme et de donc recevoir les énergies qu'elle envoie, mais aussi qui vont être envoyées par des êtres qui sont des êtres très très sages, hein, qu'on appelle quelquefois des maîtres de sagesse et qui sont qui travaillent pour aider l'humanité, hein, et qui envoie des énergies à travers les méditants, et le travail et le service qu'accomplit le méditant en même temps qu'il fait cette méditation est un service donc de transformation des énergies C'est, en l'occurrence, de les abaisser en fréquence, hein, qui est un travail qui se fait automatiquement, hein, la personne n'a pas à y penser. Le simple fait que les énergies passent à travers les chakras de la personne fait que les énergies vont être abaissées en termes, en termes vibratoires. Et voilà, et donc c'est une forme de méditation qui a l'avantage d'être aussi un service. Et les énergies ne restent pas stagnées à l'intérieur de la personne.
Oui, alors c'est Benjamin Crème qui fait connaître cette méditation dans le monde depuis plus de 30 ans. Alors il parle de l'émergence des maîtres de sagesse, et c'est pourquoi il a donc l'émergence publique dans le monde. Selon lui, on va bientôt connaître l'existence, la révélation va se faire au sujet de l'existence de ces grands sages. Et selon lui, leur rôle est de diriger les énergies sur Terre, donc ils utilisent ces groupes-là, qui se réunissent volontairement, qui se mettent au service.
Ces groupes de méditants, donc.
Voilà, tous les gens se mettent au front. Et les maîtres
se mettent au front. Ils concentrent leur attention au niveau du front, c'est-à-dire là où il y a un chakra qu'on appelle le chakra ajna, hein, entre les sourcils.
Voilà. On ne l'a pas dit, mais bien sûr, la méditation doit se faire à partir du front pour élever la conscience, justement. Et le groupe n'est pas responsable de diriger ensuite les énergies, simplement elles passent à travers lui, elles sont abaissées. Et donc ce groupe, cet égrégore de maîtres, dirige après les énergies dans le monde. Voilà, on vous donnera des informations en fin d'émission si vous voulez assister à une conférence que va donner Benjamin Crème à Paris. Mais c'est vrai que cette méditation allie en même temps, ce qui est rare, la méditation et le service. C'est-à-dire on médite et en même temps on sert à la fois. C'est-à-dire ça se fait pas en deux temps, ça se fait simultanément.
Donc on évite tous les dangers de la méditation qui peuvent survenir si l'énergie captée n'est pas correctement utilisée, quoi.
Et cette méditation donc permet aux gens de pouvoir méditer, donc d'être nourris par ces hautes énergies. On reçoit pas, c'est pas comme dans la méditation personnelle où on reçoit les énergies de son âme. Là, on reçoit une grande variété d'énergies, très élevées même, différentes de la nôtre. Elles passent à travers nous, elles sont ajustées à travers les gens du groupe. Donc on est nourri à ce niveau-là, mais en même temps, on est utile pour le monde. Alors que d'ordinaire, quand on médite, on ne sait pas forcément tout le temps comment on va pouvoir être utile, on ne sait pas où aller, comment faire. On est souvent plus attiré par le fait de méditer que de servir, il faut le dire. Alors que là, on peut offrir un service au monde une fois, deux fois par semaine. On peut méditer, comme tu le dis, plus longtemps, donc on peut facilement faire des séances de 2 heures. Hein, en groupe, et il n'y a pas les phénomènes dont on parlait avant, les phénomènes de débalancement, de déséquilibre, parce qu'on a servi, on a été utile. Donc voilà pourquoi Benjamin Crème a fait connaître cette méditation. Mais il faut aussi préciser qu'on peut méditer en dehors, parallèlement, avoir sa propre méditation, et l'important c'est de ne pas mélanger les deux. Et ça c'est une règle d'or qu'on peut se donner tout le temps, de ne pas mélanger les techniques. Et si les gens suivent une méthode de méditation, s'assurer qu'elle est fondée sur de bonnes bases. Donc la tradition souvent est une bonne base avec un bon instructeur
et qu'elle correspond à la personne aussi.
Et voilà. Mais ça, en général, on s'en rend vite assez compte. Et souvent, les gens finissent par se diriger vers la méditation qui leur convient. Et ceux qui sont pas très mentaux, qui sont pas très branchés méditation. Comme on l'entendait dans le type Raja Yoga, ils vont souvent aller vers des formes plus dévotionnelles. Donc à travers des chants, on l'a pas dit, la prière, la danse, ils vont chercher à s'abandonner dans des états justement dirigés souvent vers un aspect de la divinité. Donc on peut dire que c'est une forme de méditation, même si elle est moins scientifique entre guillemets, mais on apprend à s'absorber dans quelque chose de plus grand, et donc souvent ces méthodes-là aussi, donc du chant, de la danse et autres, plus dévotionnelles peut-être, mais ont aussi servi, il faut le préciser, dans des voies méditatives. Donc on pourrait faire peut-être un résumé, Olivier, de ce qu'est la méditation, des étapes. La méditation, c'est...
Donc le premier stage, c'est la concentration,
Voilà.
C'est déjà arrivé à se concentrer l'esprit, et donc ça veut dire laisser de côté aussi tout ce qui gêne cette concentration, donc prendre une s'abstraire des, comme tu disais au début David, des sens, s'abstraire de
du milieu,
donc ça veut dire éventuellement fermer les yeux si on n'arrive pas à ne pas suivre des yeux et du mental ce qui nous entoure, et puis trouver un endroit calme, et puis voilà, ensuite ne pas être gêné par le corps physique non plus, ça veut dire être assis confortablement par exemple, hein. C'est pas forcément utile de se faire mal, hein, parce qu'on veut méditer, au contraire. Et donc voilà, donc arriver à une concentration, et on l'a dit, ça passe par porter son attention au niveau du chakra qui est entre les sourcils, qu'on appelle le chakra Ajna, qui va être facteur donc de cette concentration, et puis d'oubli du reste. Donc ça, c'est la première étape.
Et on s'absorbe donc dans un objet de pensée, le plus abstrait, le plus élevé, le plus beau possible, qui peut être visuel, auditif, voire un peu des deux, mais on s'y abstrait complètement.
Donc là, c'est dans le cas d'une méditation avec support, en fait, hein, qui peut être le support pouvant être quelque chose de visuel ou quelque chose d'auditif ou un mantra qu'on va se répéter, etc.
C'est vrai qu'on peut méditer directement sur la vacuité, comme on fait dans certaines pratiques bouddhistes, mais à ce moment-là, il faut être, je dirais, presque très absorbé, très concentré sur l'énergie, sur l'état de la vacuité. C'est pas avoir l'esprit vide, hein, ce qui est souvent...
Oui, c'est pas conseillé du tout, ça, d'avoir de pas laisser conseillé. L'esprit vide. Hein.
On peut avoir l'esprit vide et pas du tout méditer. Sur le plan émotionnel, on peut être très calme devant la nature, regarder ça un peu de façon hagard et pas du tout méditer. Donc, il y a toujours une
ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de conscience, en fait, hein. Il y a une sorte d'absence, en fait.
Elle est, oui, et en tout cas, elle n'est pas très élevée. Elle est un peu vague sur le plan émotionnel. On se dissout, alors que dans l'acte de méditer, il y a toujours une tension spirituelle, je dirais. Une tension mentale qui devient une tension spirituelle. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait une autre étape après le contact à l'âme, qui est rarement atteint, surtout par les débutants, mais c'est l'autre partie du pont. C'est quand l'âme est en contact avec le cerveau, complètement installé dedans, on peut à ce moment-là pousser plus loin la méditation. Et là, on ne crée plus de pensée par un son ou à l'aide d'une image, mais on pousse avec l'énergie de la volonté. C'est une volonté qui est celle de l'âme, donc c'est une volonté spirituelle. On pousse, on projette la lumière plus haut encore, et on peut contacter le premier plan qui est celui qui va nous mettre en lien plus avec l'âme, mais avec la nature du soi. On appelle ça le plan bouddhique ou christique, selon les traditions, le plan de l'intuition. Et cette énergie-là reflète, ce n'est pas directement l'énergie le plan du soi, mais elle reflète le rayon, l'énergie du soi, et on peut entrer en contact avec ce plan-là. Et c'est ce qu'on appelle l'état de samadhi.
L'état de contemplation.
Voilà, de contemplation. Alors pour l'atteindre, ça demande une très grande intensité, mais quand l'énergie arrive, elle n'arrive plus dans la tête, elle nous traverse et arrive dans le cœur à droite du corps. Donc pas dans l'organe du cœur, mais dans un chakra spirituel. C'est le fameux cœur sacré de Jésus. C'est donc la notion donc de contemplation, de fusion. On perd même la notion, le contact à l'âme individuelle. On est dans quelque chose de complètement transpersonnel. Et on vit à ce moment-là, à sa façon, la nature du soi, l'expérience du soi. Donc ça, pour nous, êtres humains, c'est le plus haut état qu'on puisse atteindre. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres au-dessus. Il y en a plein d'autres, en fait, au-dessus. Mais nous, voilà. C'est vraiment quelque chose, il faut être bien expérimenté déjà avec le premier niveau de méditation pour pouvoir entrer en samadhi. Et on y reste peut-être quelques minutes, mais on ne va pas y rester non plus très longtemps. Alors que des grands sages, on savait, pouvaient y rester des semaines même. Hein. Donc voilà, Olivier, peut-être qu'on peut commencer à donner un petit peu quelques infos pratiques.
Alors, info pratique pour ceux qui désiraient, pourquoi pas, tester cette forme de méditation dont on a dit que c'était en même temps une méditation de service, hein, enfin une forme de service, ça s'appelle la méditation de transmission. L'auteur britannique, donc Benjamin Krem, va donner une conférence à Paris dans quelques jours, à la fin de ce mois, samedi en fait, le 28 mars à 15h à l'Espace Charenton. L'Espace Charenton, c'est 5 rue Théodore Hamon. Hamon, H-A-M-O-N-T, 5 rue Théodore Hamon, c'est dans le 12e, Paris 12e, et c'est le métro Porte de Charenton qui est à 100 mètres de la salle. Est-il marqué? Je peux donner même une adresse de parking, puisqu'il y a des parkings pour ceux qui iraient là en voiture, au 57 boulevard Poniatowski, donc c'est à 200 mètres de la salle, il y a des parkings souterrains ou en étage, je ne sais pas, mais des parkings où on peut garer sa voiture.
Donc ça, Olivier, c'est pour la conférence. Et sur place, il présentera la méditation de transmission. Et il y aura lendemain, là, pardon. Oui, il y aura une conférence sur les maîtres de sagesse.
Le 28 mars, oui.
Voilà, le 28 mars. Il donnera toutes les informations pratiques pour pouvoir le lendemain pratiquer. Il y a un atelier de pratique de la méditation de transmission pour ceux qui veulent l'essayer.
Voilà, donc le lendemain, le dimanche 29 mars, donc il faut venir à la conférence en fait pour connaître le lieu et l'horaire de cette méditation de transmission.
Pour que les mêmes personnes y aillent.
Voilà, tout simplement. Et le souci de Monsieur Crème à ce niveau-là, c'est qu'il donne des informations lors de la conférence qu'il n'aura pas le temps de redonner le lendemain dimanche à tous les gens qui voudraient participer à cette méditation de transmission. Et donc c'est pour ça qu'il souhaite que seulement des personnes qui ont assisté à la conférence participent à cette méditation.
Le disque vocal peut-être.
Il y a un disque vocal. Alors 01 42 50 26 60 pour davantage d'informations sur cette conférence et cette méditation de transmission. 01 42 50 26 60.
Alors une référence bibliographique, je conseille. Alors ça c'est une approche très ésotérique. C'est Lettres sur la méditation occulte d'Alice Bellet aux éditions Lucis Trust. Voilà Olivier.
Merci David.
Merci à tous et à bientôt.
À la prochaine fois.